Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
De fausses idoles apparaissent aujourd'hui. Si les chrétiens veulent être fidèles, ils ne doivent pas avoir peur d'aller à contre-courant. C'est l'objet d'un tweet publié ce mercredi par Benoît XVI et de sa catéchèse lors de l'audience générale. À l'issue de celle-ci, le pape a salué le comité d'organisation des futurs JMJ. Vous entendrez dans un instant l'évêque auxiliaire de Rio. Le Royaume-Uni pourrait vivre ses dernières années au sein de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique annonce un référendum sur cette question. L'Église catholique souhaite-t-elle que Londres reste membre de l'Union européenne ? À quelques jours seulement d'une journée de prière internationale pour la Terre Sainte, Mgr Foitoile, le patriarche latin de Jérusalem, prie pour la paix. Il commentera pour nous les élections qui se tiennent cette semaine en Israël et en Jordanie, son pays d'origine. Enfin, l'archevêché de Los Angeles présente à nouveau ses excuses. Un rapport a été rendu public sur d'anciennes affaires de pédophilie en Californie. Un grand déballage selon le New York Times. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine en langue française de Radio Vatican. Jakarta recouverte par les eaux, la capitale indonésienne n'avait pas connu cela depuis 5 ans. Une semaine après de terribles inondations en Indonésie, Benoît XVI a fait part ce mercredi de sa préoccupation. Lors de l'audience générale, le pape a exprimé sa proximité aux populations frappées par cette calamité naturelle, les assurant de sa prière, encourageant aussi à la solidarité afin que personne ne manque des nécessaires secours. 20 personnes auraient été tuées, il y aurait aussi quelques 30 000 déplacés suite à cette alluvion. Beaucoup plus spirituel, mais bien ancré dans le monde d'aujourd'hui, dans nos sociétés où Dieu est devenu le grand absent et où nous sommes encerclés d'idoles. Pour reprendre ces mots, Benoît XVI a appelé les fidèles à ne pas avoir peur de vivre à contre-courant devant des milliers de pèlerins rassemblés salle Paul VI. Le pape a poursuivi sa catéchèse à l'occasion de l'année de la foi sur le credo. Je vous propose de l'écouter.
Dans la Bible, Abraham est la première grande figure de référence pour parler de la foi. Il obéit à Dieu qui l'appelle à tout quitter. Il part dans l'obscurité, sûr cependant de la promesse d'une nouvelle terre et d'une paternité, malgré la stérilité de sa femme. Abraham discerne au-delà des apparences le dessein de Dieu qui est bénédiction. C'est pourquoi il est béni, il est le père des croyants, ceux qui acceptent de marcher à sa suite dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Quand nous affirmons « Je crois en Dieu », nous disons comme Abraham, « J'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. » Dire « Je crois en Dieu » signifie aussi « Fonder ma vie sur Dieu. Laisser sa parole m'orienter. » Avec le don de la foi reçu au baptême, c'est toute ma personne qui doit se convertir. La foi nous rend pèlerins sur la terre, des porteurs de valeurs qui ne coïncident pas souvent avec la mode. Affirmer « Je crois en Dieu » nous pousse à sortir de nous-mêmes, comme Abraham, pour porter dans la réalité quotidienne la présence de Dieu qui ouvre à une plénitude de vie que ne finira jamais. Je salue avec joie les pèlerins francophones, surtout les jeunes. La foi est un don de Dieu et un engagement personnel. Elle insère les chrétiens dans le monde et dans l'histoire. Fiers de votre foi, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant. Résistez à la tentation du conformisme. Apportez Dieu là où existent les idoles, l'égocentrisme et l'illusion de la toute-puissance de l'homme. Bon pèlerinage.
De fausses idoles apparaissent aujourd'hui. Si les chrétiens veulent être fidèles, ils ne doivent pas avoir peur d'aller à contre-courant. Ce mercredi midi, le pape a repris dans un tweet en 9 langues, dont le latin, le message clé de sa catéchèse. Ces tweets de Benoît XVI, Mgr Claudio Maria Celli y voit des gouttes de rosée capables d'apaiser la soif de vérité et d'amour de l'homme qui doit parcourir souvent en pleine solitude son chemin dans l'histoire. Selon le président du Conseil pontifical pour les communications sociales, la présence du pape sur Internet est un moyen de contrer la désertification spirituelle, Avant de poursuivre, le pape est selon lui conscient des difficultés que les personnes rencontrent aujourd'hui. Il a un désir profond d'être proche des hommes et des femmes où qu'ils se trouvent. Puis je vous le rappelle, ce jeudi 24 janvier, jour de la fête de Saint-François de Sales, le patron des journalistes, Benoît XVI rendra public son message pour la journée mondiale des communications sociales et ce message portera justement sur les réseaux sociaux. Les JMJ 2013, c'est cet été à Rio. Lors de l'audience générale, Benoît XVI a béni une délégation venue du Brésil, des évêques, des prêtres, des laïcs qui appartiennent au comité d'organisation de ces journées mondiales de la jeunesse, ainsi aussi que plusieurs représentants du gouvernement brésilien. Benoît XVI les a accueillis chaleureusement. « C'est seulement en nous tenant par la main », a-t-il dit, « que nous serons capables d'atteindre notre but ». Je vous propose d'écouter la joie exprimée par Mgr Paulo César Costa, l'évêque auxiliaire de Rio, l'un des deux vice-présidents du comité d'organisation locale.
Maintenant, nous travaillons beaucoup pour préparer bien la journée mondiale de la jeunesse à Rio. Nous espérons les jeunes avec beaucoup de joie. Nous espérons les jeunes qui, invités du Seigneur, ont répondu son invitation.
Mais pourquoi le comité d'organisation était-il à Rome? Pour mettre au point l'organisation du grand rassemblement, notamment ce qui concerne l'accueil des centaines de milliers de jeunes, des installations des sites de Copacabana et de Guaratiba, là où se déroulera la veillée et la messe de clôture. Il s'agit aussi de parler de la logistique de cette visite de Benoît XVI. Les membres de ce comité ont multiplié les réunions et rendez-vous au Vatican. Ils ont aussi pris le temps de célébrer une messe sur la tombe du bienheureux Jean-Paul II, le protecteur et fondateur des JMJ. En bref, le Saint-Siège est devenu officiellement, ce lundi, observateur extra-régional du SICA, le système d'intégration centra-américain qui s'occupe en fait du commerce extérieur des États d'Amérique centrale. Une cérémonie s'est tenue ce lundi au Salvador, en présence bien sûr du nonce apostolique sur place, mais aussi du secrétaire général du SICA. L'an dernier, lors d'un précédent sommet, le Saint-Siège avait en fait fait savoir qu'il souhaitait prendre part à cette institution en raison de sa contribution au développement de ces pays d'Amérique centrale dans les domaines sociaux, culturels, éducatifs, mais aussi en ce qui concerne les droits humains et la démocratie. Dans 3000 villes du monde aura lieu la prière pour la paix en Terre Sainte, une initiative organisée dans le cadre de la 5e journée internationale d'intercession, une journée promue en 2009 par plusieurs groupes de jeunes catholiques. La paix, un nouvel espoir est peut-être permis avec la percée des centristes lors des élections législatives anticipées. Elles se sont déroulées ce mardi en Israël. Si le Likoud de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre situé donc à droite de l'échiquier politique, reste en tête, le parti centriste de Yair Lapid devient la seconde formation politique du pays. Une surprise, une coalition entre les deux partis serait plus modérée que celle formée par le passé. Et puis notons que cette nouvelle Knesset, la 19e assemblée israélienne depuis le début de son existence, eh bien dans cette assemblée, il y aura plus de femmes et plus de kippas que jamais. Un tiers des députés est en effet religieux. Je vous propose d'écouter le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Foitoile, commente pour nous cette élection en Israël et pas seulement.
C'est leur affaire, ce sont des élections internes. C'est un signe de démocratie que les peuples, que les gens votent pour qui ils veulent voter. Et ce n'est pas encore décidé qui sera à la tête, parce que c'est une question d'alliance après tout cela, qu'ils votent avec tous les candidats qu'ils veulent. Mais de notre part, je dis qu'ils se souviennent qu'il y a une terre qui s'appelle Palestine, qu'il y a un peuple qui s'appelle Palestinien, avec lequel nous devons vivre en paix, eux et nous, et nos enfants dans les générations futures. Je souhaite qu'il ait à cœur et en conscience la situation telle qu'elle est et qu'il fasse les nouveaux candidats, qu'il fasse de leur mieux pour assurer cette paix pour tout le monde et cette justice pour tout le monde.
C'est aujourd'hui également jour d'élection législative en Jordanie, votre pays. Vous aviez vous-même écrit une lettre appelant les chrétiens jordaniens à voter. Comment cette lettre a-t-elle été reçue?
Cette lettre, de notre part, a eu un impact positif au niveau national et international. J'ai suivi un peu dans la télévision, je vois que tous participent, et jusqu'à maintenant, il y a presque 35-36% qui ont participé. J'espère que toute la population y participe, nous avons besoin, et tous, paraît-il, louent cette manière de faire, c'est clair et net et franc et transparent, et espérons bien, parce que la Jordanie, il faut le dire, a toujours pensé à ces réformes, elle a déjà commencé ces réformes, espérons qu'elle porte à fin à port ces réformes pour le bien de tous. Nous sommes, j'étais la semaine dernière à Mafraq, nord de la Jordanie, pour une visite pastorale, et j'ai rencontré aussi les centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont là. Et c'est tellement dramatique, la Jordanie accueille tout ce monde malgré ses ressources bien limitées. En même temps, va sortir aujourd'hui ou demain un communiqué pour encourager, prier, être solidaire avec toutes nos communautés chrétiennes, religieuses qui travaillent en Syrie et qui sont restées là. Et ça, c'est une situation franchement dramatique et qu'ils sentent tous que nous sommes à leur côté avec nos prières et avec tout ce que nous pouvons faire.
Monseigneur Foitoile était interrogé par Manuela à Fidji. Et puis, vous en entendiez parler à l'instant, en Jordanie, 2 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce mercredi. Les frères musulmans boycottent le scrutin et les proches du roi Abdallah sont donnés favoris malgré des manifestations de plus en plus nombreuses dans les rues d'Amman. Mais pour autant, ces élections représentent un premier pas en direction de l'émergence d'une authentique vie démocratique. C'est ce qu'affirme le père Rifa Bader, le directeur du Catholic Center for Studies and Media en Jordanie. Eh bien, il souligne que plus de 40 chrétiens sont candidats sur des listes traditionnelles ou sur celles réservées aux minorités. À la chambre basse du royaume hachimite, 9 sièges sur 150 sont en effet attribués aux chrétiens. Et puis dans leur meeting de campagne perçait la préoccupation de cette communauté chrétienne qui vit en Jordanie, la lutte contre les discriminations au niveau politique et social, la question de la conversion religieuse. Mais pour le père Bader, au-delà des enjeux locaux, ces élections constituent un test important pour déchiffrer l'avenir de la Jordanie au sein d'un contexte régional très agité. En Turquie, l'homme qui assassina Mgr Luigi Padovese a été condamné ce mardi à 15 ans de prison. Incarcéré déjà depuis 3 ans, Murat Altun, 29 ans, avait tué le vicaire apostolique d'Anatolie et président de la conférence épiscopale turque en juin 2010, il y a 2 ans. Il a dit regretter son geste mais affirme avoir été hors de lui ce jour-là. Depuis son arrestation, Murat Altun a avancé diverses raisons contradictoires pour expliquer son geste meurtrier. À plusieurs reprises, des représentants de l'Église ont demandé au gouvernement turc de faire toute la lumière sur cet assassinat. La conférence des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles s'oppose à une sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne. À Londres, le Premier ministre a cédé en effet aux pressions des eurosceptiques de son gouvernement. Bien que lui-même favorable à un maintien de son pays au sein de l'Union, David Cameron s'est engagé à convoquer un référendum sur la question à l'horizon 2015-2017. Je vous propose tout de suite d'écouter Mgr William Kenny, administrateur diocésain pour l'archidiocèse de Birmingham, membre aussi du département des affaires internationales à la conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles. Sa réaction.
Je ne suis pas du tout favorable à un référendum. Je pense que ces questions, et celles-là en particulier, sont bien trop compliquées pour être soumises à référendum. Je crois que c'est pour cela que nous avons des hommes politiques qui essaient de comprendre quel est le problème et qui vont ensuite écouter les gens et enfin prendre une décision. C'est pourquoi je suis contre tout référendum et pas seulement sur ce sujet.
Pensez-vous qu'il y ait quelque chose d'autre derrière cette décision ?
Oui, certainement. Cela a plus à voir avec la politique nationale qu'avec l'Union européenne, parce que l'aile droite du parti de Cameron est contre l'UE, parce qu'elle ne veut pas que le pays dépende d'une manière ou d'une autre d'autres pays. Je trouve ce point de vue assez irréaliste et même très peu moral. Mais c'est comme cela.
Quelle est la position officielle de l'Église catholique de Grande-Bretagne sur la présence du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne ?
Nous n'avons pas une position officielle sur la question. Pour nous, c'est un sujet politique que nous ne commentons pas. En fait, je crois que nombre de catholiques sont en faveur de l'Union européenne. D'autres pas, en raison surtout de la solidarité avec les autres. Mais je pense que le principal sujet demeure la paix. C'est le succès de l'Union européenne qui a favorisé la paix entre ses membres, et les futures générations doivent travailler à cela car la paix n'est jamais acquise. Et être membre de l'Union européenne la favorise.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Il sera intronisé en mars prochain, mais d'ores et déjà, le nouveau chef de la communion anglicane est invité à se rendre à Rome. Au Vatican, le responsable du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, responsable des relations avec les anglicans et les méthodistes, a estimé souhaitable que le nouvel archevêque de Canterbury, Justin Welby, accomplisse sa première visite à Rome dans le courant de l'année. Monseigneur Mark Langham se dit très satisfait des avancées accomplies, dans le dialogue, par exemple, concernant les thèmes de la sainteté, de la sanctification. Mais il signale que des divisions internes aux deux confessions peuvent entraver la progression de l'unité des chrétiens. Il s'agit de la question délicate de l'ordination épiscopale des femmes au sein de la communion anglicane et, chez les méthodistes, des divergences de vues entre la doctrine officielle et la pratique. Un écart perçu avec inquiétude par l'Église catholique, a affirmé Mgr Langham. Je vous signale que nous sommes en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est un nouveau coup dur pour l'Église catholique aux États-Unis. À la demande de la justice fédérale, quelques 30 000 pages d'un rapport interne de l'archevêché de Los Angeles, resté à ce jour confidentiel, ont été rendus publics. Ce grand déballage confirme, selon le New York Times, ce que le cardinal Roger Mahony, l'ancien archevêque de Los Angeles, entre 1985 et 2011, ainsi que plusieurs prélats, étaient bel et bien au courant des abus sexuels commis par des prêtres sur des enfants et qu'ils se sont efforcés pendant des années, à l'insu de leurs fidèles et de la justice, d'étouffer le scandale. Bernard de Cotigny.
Dans ce rapport, on découvre notamment qu'en 1986 et 1987, l'archevêque du plus grand diocèse des États-Unis et ses collaborateurs ont étudié une véritable stratégie pour empêcher que ces abus ne soient révélés au grand jour et limiter ainsi les dégâts. Il fallait, selon eux, éviter que les autorités et la police soient informées. Plusieurs prêtres ont ainsi continué à abuser d'enfants sans jamais être inquiétés. Un exemple, en 2006, un documentaire avait révélé qu'un prêtre proche du cardinal Mahony avait agressé sexuellement des mineurs, dont des enfants en bas âge, pendant près de 20 ans. D'après les auteurs du film, la police de la ville de Stockton, dont Mgr Mahony était évêque, avait accepté en 1984 d'abandonner les charges contre lui après un engagement du diocèse de ne plus mettre ce prêtre en contact avec des adolescents. Dans les faits, le cardinal s'était contenté de déplacer ce prêtre dans un diocèse voisin, où il avait continué ses agissements sans pouvoir être inquiété par la justice californienne. Dans un communiqué rendu public cette semaine, le cardinal Mahony reconnaît ses erreurs et demande pardon. Il affirme avoir rencontré 90 victimes et avoir pris la mesure de leur souffrance. Il conserve ainsi dans sa chapelle privée les noms de chacune d'entre elles et prie pour elles tous les jours. « J'ai été naïf, je suis désolé », conclut-il simplement.
En 2007, l'archidiocèse de Los Angeles avait déjà présenté des excuses publiques auprès des victimes pour le crime et le péché terrible que représentent ces agressions sexuelles. Un drame d'une telle ampleur n'aurait jamais dû arriver, ne doit jamais se reproduire, avait affirmé le cardinal Mahony. 660 millions de dollars avaient alors été versés au titre de dommages et intérêts, une somme record dans le scandale de pédophilie qui touche depuis 2002 le clergé catholique américain. Et puis le scandale des abus sexuels, un dossier très suivi, on le sait, à Rome, un an après le symposium organisé sur la question à l'université pontificale grégorienne à Rome, une nouvelle rencontre aura lieu le 5 février au même endroit pour faire le point sur les mesures prises depuis pour lutter contre ce fléau. Une rencontre intitulée « En chemin vers la guérison et le renouvellement ». Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure pour une nouvelle émission.